France Info. 20h-21h, France Info, les informés,
les jolis.
Bonsoir et bienvenue dans Les Informés, émission de débat, vous le savez, sur France Info, que l'on peut retrouver sur franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Alors au menu ce soir, on voit que c'est déjà la rentrée politique du moins, avec ce dont tout le monde parle ce soir, c'est-à-dire la candidature de Nicolas Sarkozy annoncée dans un livre qui paraît demain chez Plon. Il s'intitule « Tout pour la France ». Alors, la phrase du jour, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2017. La France exige qu'on lui donne tout. J'ai senti que j'avais la force pour mener ce combat à un moment si tourmenté de notre histoire. C'est donc Nicolas Sarkozy qui parle. Candidature déjà brocardée par ceux qui le redoutent le plus. Florian Philippot, par exemple, au Front National.
Bon, bah écoutez, c'est le retour officiel donc de Supermenteur. J'ai toujours, moi, sur le fond, un questionnement, puisqu'on voit des candidatures émerger, Madame Duflot, Monsieur Montbourrière, aujourd'hui Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire des gens qui ont gouverné, qui ont échoué ces dernières années, toutes récentes, et qui veulent absolument revenir, on se demande bien pourquoi.
Alors une annonce de candidature qui fait suite à celle d'Arnaud Montebourg à gauche, c'était hier à Frangy-en-Bresse à la fête de la Rose, on y reviendra longuement sur ces annonces politiques dans les informés de ce soir. On parlera aussi de Merkel, Hollande et Renzi qui sont sur un bateau aujourd'hui au large de Naples pour relancer l'Europe à eux trois tout seuls après la déflagration du Brexit et on se doute qu'il y aura du pain sur la planche. On fera un petit bilan des Jeux Olympiques de Rio si on a le temps pour savoir s'ils vont profiter au Brésil et si toutes ces belles médailles que la France a remportées, 43 je vous le rappelle, si ces belles médailles constituent un bon point pour la candidature de Paris en 2024. Mais là, tout de suite, on va commencer par parler de l'interminable crise du lait qui prend les producteurs à la gorge, des producteurs aux abois qui bloquent en ce moment même le géant mondial de la distribution du lait Lactalis, trop ingre sur les prix, selon eux. Et pour en parler ce soir, trois habitués désinformés et puis un nouveau venu, Raquel Garrido, avocate et membre du Parti de gauche, auteur du Guide du citoyen de la 6e République. Pourquoi, comment en finir avec la monarchie présidentielle, c'est chez Fayard, ça a été c'est paru en 2015. Bonsoir.
Bonsoir.
François Dorcival de Valeurs Actuelles et Michel Hurvoy d'Ouest France, tous deux sont nos partenaires, ainsi que Franck Pupuna, fondateur du mouvement politique Transparti Utopia et également initiateur de l'appel à Nicolas Hulot, appel qui n'a pas eu beaucoup de succès. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les trois, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avant de lancer le débat sur cette crise du lait qui dure maintenant depuis 18 mois, disons depuis la fin des quotas laitiers, je voudrais d'abord que vous écoutiez ce témoignage de producteur diffusé ce matin. C'était bien sûr sur France Info.
Moi, c'est simple. Le manque à gagner par mois, il est de 4000 euros. On se dit, c'est pas possible. On est des esclaves. Lactalis, c'est numéro un. Toujours dans des prix à râler pâquerette, on va dire. Et la concurrence se calque sur eux. Donc, on subit tout le temps. Et c'est la loi du marché, comme ils nous disent. Mais moralement, humainement, il n'y a aucune relation. Voilà, c'est un problème.
Voilà un témoignage d'un producteur en pleine détresse. Alors, est-ce qu'on doit laisser mourir nos producteurs de lait français? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que c'est uniquement la faute à Lactalis, le géant mondial du lait? Qui veut répondre? Monsieur Hurvoy.
Oui, c'est une crise qui était annoncée. Elle était annoncée parce qu'on en connaît les causes, elles sont à la fois nationales et européennes. Elles sont nationales parce que la structure du monde agricole n'est pas la même que chez nos principaux concurrents, la taille des exploitations n'est pas la même, les coûts de main-d'œuvre sont différents, et européennes, puisque avec la fin des quotas, on savait que la production allait augmenter, il y a d'ailleurs eu partout en Europe des investissements conséquents pour augmenter la production, qui dit hausse de la production, même si c'est un peu à la marge en quantité, ça fait effondrer les prix quasi instantanément. Donc on le savait, mais la réponse, eh ben, elle sera aussi française et européenne, mais ça c'est une autre histoire.
Alors c'est un problème franco-français, on n'a pas su anticiper la fin des quotas, on a un problème de prix, Franck Pupuna.
Oui, c'est tout cela à la fois, c'est-à-dire qu'il faut dire clairement que les agriculteurs ont été trahis. Trahi à la fois par les soi-disant coopératives agricoles, Lactalis en fait partie, mais aussi trahi par leur syndicat majoritaire, trahi par la politique agricole qui les a menés droit dans le mur. Aujourd'hui, comme il était dit, on ne peut pas imaginer leur dire « vous allez être dans une compétition internationale avec des élevages en phase 2 qui font plus de 1000 vaches, qui sont totalement robotisées et dont les vaches ne voient jamais le jour ». Et aujourd'hui, ce sont les premiers, demain ce seront les céréaliers, après-demain ce seront les éleveurs de cochons. Donc il faut appeler à un changement radical de notre modèle agricole, centré sur le bio, les circuits courts, la valorisation des terroirs et la valorisation des origines protégées. Tout le monde y gagne. Notre santé, l'environnement, les agriculteurs, il y aura plus d'emplois et ce sera mieux rémunéré avec cette valeur ajoutée. Et bien entendu, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faut une profonde réorientation de notre politique agricole commune.
Ça veut dire qu'il faut que l'Europe revienne aux quotas ou bien subventionne les agriculteurs pour se reconvertir ?
Moi, je vais vous livrer un témoignage parce que je le trouve très simple et très frappant. Je rencontre un agriculteur dans le sud-ouest, c'est pas une grande région d'élevage. La grande région d'élevage, c'est l'ouest de Michel Hurvoy, dans le sud-ouest. Cet agriculteur, il a 32 ans. Je le trouve sur une énorme moissonneuse-batteuse et je lui demande « Mais pourquoi est-il sur cet engin ?» Alors que je le sais, éleveur. Et il me dit « Oui, j'ai 400 vaches, mais... mon prix de lait, c'est 27 centimes du litre.
25 aujourd'hui 25 chez Lactalis.
25 aujourd'hui. Et lorsqu'il s'agit de lait qui vient d'Ukraine, produit en Ukraine, livré en Europe, il est à 11 centimes. Quand Lactalis vous parle du marché, c'est de cela dont il parle. Alors à partir de là, cet agriculteur-là, il dit « Moi, je décroche. Moi, je vais fermer mon exploitation. Je vais cesser. » Et ça, là, nous aboutissons un vrai danger. Or, Lactalis n'est pas l'État. Lactalis est parmi d'autres entreprises, représente certes 20% du marché,
mais n'est pas
l'État. Vous avez d'autres coopératives qui payent mieux le lait qu'elles.
C'est ce que disent les producteurs.
Absolument, ouais. Ils ont raison. Et donc, tout est à réexaminer. Mais effectivement, quand Lactalis dit « mon interlocuteur, ce ne sont pas les syndicats agricoles », c'est vrai aussi. Il n'empêche que c'est ce débat qui est fondamental.
Alors, quel est le bon interlocuteur, Raquel Garrido? Vous avez une idée sur la question? C'est Bruxelles? C'est Paris? Comment protéger nos producteurs laitiers?
Il faut s'adresser à tous les décideurs, mais qui aujourd'hui ne sont pas en réalité les bons, parce qu'on a placé les produits agricoles sous l'égide du principe de la concurrence libre. D'ailleurs, l'agriculteur, le manifestant que vous avez interviewé au départ, le dit, c'est la loi du marché. La loi du marché.
C'est maintenant la loi du marché.
Exactement.
Avec la fin des quotas, effectivement.
Exactement. C'est ça le problème. Le problème, il est que la loi du marché, la concurrence internationale, ne peut pas s'appliquer impunément aux produits agricoles, aux produits dont dépend la survie humaine. Et nous avons eu, avec la politique agricole commune, une mauvaise politique concernant ce domaine, pour plein de raisons. D'abord pour des
nous
raisons internationales.
Nous avons eu une mauvaise politique ou nous avons une nouvelle politique
non,
qui est mauvaise.
Ça fait plusieurs des décennies que la politique est mauvaise. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord, la première raison, c'est que concernant le lait, c'est la base de l'alimentation pour nous, les mammifères. D'accord. Donc, c'est important que toutes les nations du monde puissent produire leur propre lait. Cette indépendance agricole autour du lait, c'était fondamental dans le projet initial de la PAC, mais ça concerne tous les pays. Et nous avons nous-mêmes inondé d'autres pays de nos propres produits agricoles, et notamment le lait, ce qui pose des vrais problèmes d'autonomie et des problèmes d'émancipation, voilà, de développement dans les pays du tiers-monde. Et ensuite, on a, dans un premier temps, on a bien fait de le faire, garantie des prix minimum à nos agriculteurs, à nos producteurs. Mais à partir du moment où on a compris que justement, il fallait mettre des quotas parce qu'il ne pouvait pas y avoir la concurrence libre et on ne peut pas y avoir le libre marché, à partir de là, ça a été une sorte de fuite en avant. Aujourd'hui, il faut tout remettre à plat. Ce n'est pas à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de gérer la question du commerce international sur les ressources alimentaires.
De base,
et c'est là-dessus que la France doit porter le fer au niveau international et se doter de règles national également, qui extrait ces choses-là du marché pur et simple en réinsérant des critères différents qui ont été d'ailleurs énoncés par Franck Pupunat, les circuits courts, le bio, etc.
Je voudrais donner la parole à Michel Hurvoy qui est donc, vous êtes à Ouest France, donc vous êtes dans l'ouest de la France, là où on produit le plus de lait. Alors, est-ce qu'il faut changer de politique agricole commune encore une fois? Elle va jusqu'en 2020, si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'on n'a pas su anticiper, on n'a pas été assez réactif? Ou bien est-ce que, par exemple, l'embargo russe, dont on n'a pas parlé, là encore, est quelque chose qui nous a fait extrêmement mal?
L'embargo russe est une des explications conjoncturelles. Il y a d'autres explications que je n'ai pas citées tout à l'heure, structurelles. C'est la manière, par exemple, dont les Allemands ont utilisé les aides européennes pour générer des bénéfices hors production classique, par exemple dans le photovoltaïque, par exemple dans la production d'énergie, de méthanisation. Et d'ailleurs, ils font une grosse part de leurs bénéfices sur une petite part de leur activité. Mais ça, ça a été de l'utilisation des aides européennes. Mais pour répondre à votre question, je pense que sur le plan national, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on facilite la trésorerie, c'est-à-dire on part au plus pressé. Sur le plan européen, il ne faut pas rêver au retour des quotas. C'est d'ailleurs parce que l'Europe est à dominante anti-quota, à dominante libérale, qu'ils avaient été progressivement supprimés, que la France, de droite ou de gauche, n'a pas pu résister. Et il n'y aura pas de retour des quotas. En revanche, il y a peut-être des systèmes à mettre en place, systèmes assurantiels, des systèmes de comme ça existe dans la pêche, où on déclenche, en deçà d'un certain seuil, on déclenche un prix plancher, des choses comme ça. Développer les filières, effectivement, bio, plus courtes et mieux rémunératrice. Voilà, il y a
protéger,
des réponses.
Et les protéger, parce qu'en définitive,
oui, là, on est dans l'urgence.
Sur, ce secteur-là. Sur le sujet, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, puisque ça fait 18 mois que ça dure. Et d'Europe, on va en reparler dans quelques minutes. Mais tout de suite, on va revenir à l'actualité avec le rappel des titres. Et c'est Alexandra Dubouchereau qui nous présente ce rappel des titres.
Nicolas Sarkozy n'est plus président du parti Les Républicains. Conséquence automatique de l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2017. Aujourd'hui, l'ancien chef de l'État l'officialise dans son livre « Tout pour la France » à paraître mercredi et dont des extraits ont été publiés cet après-midi sur les réseaux sociaux. À Nîmes, un feu de broussailles menace des habitations ce soir dans le quartier Santa Cruz. 4 Canadair et 2 Trackers sont mobilisés. 4 hectares ont déjà brûlé. Il faut faire de l'Europe une puissance extérieure. Déclaration de François Hollande ce soir en marge d'un mini-sommet européen au large de Naples en Italie avec Angela Merkel et Matteo Renzi. Sommet censé préparer celui de Bratislava du 16 septembre consacré à l'avenir de l'Union post-Brexit. Les médaillés français de Rio reviennent demain matin. La majorité de la délégation en tout cas est attendue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle près de Paris et à 18h demain ils seront reçus à l'Elysée. La France a récolté 42 médailles durant ces Jeux d'été. Israël durcit le ton et bombarde une dizaine de cibles dans la bande de Gaza aujourd'hui faisant 4 blessés. Réponse à un tir de roquette palestinien la veille qui n'avait fait ni blessés, ni dégâts.
20h-21h, France Info, les informés,
Lise Joly.
Alors, retour aux informés pour parler d'Europe, comme on l'a dit à l'instant, avec vous trois, Raquel Garrido, Michel Hurvoy et François Dorcival, ainsi que Franck Pepuna. Et avec cette rencontre, dont on a entendu parler à l'instant, de 3 chefs d'État et de gouvernement des pays fondateurs de l'Europe, Hollande, Merkel et Renzi. Une rencontre après le Brexit, qualifiée de gigantesque sonnerie de réveil par l'Italien. Et avant le sommet de la mi-septembre, ils ont rendu hommage à un fédéraliste italien. Mais il faut bien le dire, cette idée de fédéralisme européen est bien loin. Il y en a même qui préconise la fin de l'Europe. C'est le titre du livre de l'économiste Olivier Lacoste qui paraît ce mercredi chez Erol. Je vous propose de l'écouter.
Le référendum britannique n'est pas un coup de tonnerre inattendu dans un ciel qui était parfaitement serein depuis longtemps. Hein. Si on regarde juste la décennie qui vient de s'écouler, il y a des signes un peu de désintérêt, de doute de la part des citoyens. Signe qui mérite certainement qu'on s'interroge sur les finalités, sur les moyens de pérenniser l'Europe. Est-ce qu'on veut une Europe de la règle, une Europe du choix? Est-ce que c'est l'Europe uniquement du marché? Est-ce qu'on a construit un marché intérieur ou l'Europe des politiques?
Oui, alors l'Europe, est-ce que c'est fini, comme le dit Olivier Lacoste? Matteo Renzi, lui, dit que non, mais il faut bien le constater, cette Europe se détricote chaque jour un peu plus. Alors le pouls du malade bat-il encore un peu? Qui veut répondre?
On est tous prêts.
François Dorcival, allez-y.
Je prends la parole de Franck Pupuna, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a là 3 chefs d'État réunis ensemble. C'est vrai, vous l'avez dit, pays fondateur, mais aujourd'hui d'une Europe qui est très sérieusement malade. Et non seulement elle est malade, mais eux-mêmes sont en fin de mandat. Ils sont en fin de mandat.
Ils vont pas très bien non plus, il faut bien le dire.
Ils vont pas très bien non plus. Merkel va un peu mieux que Hollande, mais enfin, elle aussi, elle a des élections dans un an, et quant à Hollande, c'est au printemps prochain. Donc, quelles initiatives peuvent-ils lancer tous les deux avec l'Italien qui je crois, lui aussi a des échéances électorales à la fin de cette année, ou en octobre.
Il a notamment un référendum sur la réforme institutionnelle.
En octobre. Exactement, dont dépend son avenir politique dans une certaine mesure. Donc, franchement, et puis, de quoi parle-t-il ? Il parle de protection d'une part, de protection de l'Europe, et d'autre part de croissance. Comment vont-ils le faire sans les Anglais ? Or, c'est évidemment, en matière de sécurité comme de croissance économique, le sujet central. Et comment fait-on avec les Anglais ?
Michel Lurvoy, vous pensez... Raquel Garrido.
Non, je pensais que votre langue avait fourché. Vous avez dit avec les Anglais, mais vous voulez dire vis-à-vis des Anglais.
Vis-à-vis des Anglais,
oui. Absolument. Vous êtes en train de dire, Michel Dorcival, que, au fond, le Brexit François n'aura pas Lurvoy. Vraiment complètement lieu, quoi.
Mais écoutez, nous savons que la nouvelle première ministre anglaise, Mme Theresa May, ne mettra en jeu le fameux article 50 sur la sortie qu'à partir de janvier prochain. On se rappelle des propos de François Hollande il y a un mois qui voulait que ça se fasse dès le lendemain.
Tout à fait. Michel Lurvoy.
Enfin, il y a à la fois des intérêts nationaux et des intérêts communs. Évidemment, chaque pays a intérêt à ce que l'Europe s'en sorte pour des raisons de politique intérieure. Et au regard de l'histoire, ils ont un devoir de réussite. Bon, pour réussir, il faut déjà qu'ils se mettent d'accord à trois. L'Allemagne, elle ne veut pas qu'on sanctionne trop fortement la Grande-Bretagne, pour des raisons commerciales, essentiellement. La France le souhaiterait davantage, pour des raisons politiques, mais l'entre-deux, c'est peut-être un marchandage, une discussion, restons diplomatiques, en échange de laquelle on pourrait avoir peut-être un assouplissement des règles budgétaires. Je pense que c'est un petit peu ce que la France attend.
C'est ce que veut Renzi aussi. Hein.
Mais l'important, c'est que les trois réussissent à parler d'une même voix, pour qu'au sommet de Bratislava à la mi-septembre, on puisse espérer des avancées en matière de relance, en matière de protection, en matière de terrorisme, etc.
Mais justement, on a un peu le sentiment qu'en matière d'Europe, les dirigeants se paient de mots, mais agissent lentement et très peu. Alors, le sujet, est-ce qu'il est vraiment explosif, Franck Pupuna ?
Moi, je pense qu'on peut faire sans les Anglais, mais qu'on ne peut pas faire sans les citoyens. Et paradoxalement, la conscience européenne, notamment dans la jeunesse, aujourd'hui, elle existe. Je me rappelle du film L'Auberge espagnole de Clapiche. Et il y a un décalage réellement entre ce rêve et puis ce qu'en font les dirigeants. Et je pense que l'urgence, c'est justement un New Deal démocratique avec une nouvelle constituante au niveau européen en changeant complètement l'opacité des institutions. Enfin, le Conseil européen aujourd'hui, le Conseil de l'Europe ou la Commission européenne où se prennent de très nombreuses décisions est particulièrement opaque.
Vous voulez dire qu'on ne sait pas qui fait quoi, ni comment ?
On ne sait pas qui fait quoi. On sait par contre qui fait quoi pour la Banque Centrale Européenne qui, elle, est complètement indépendante et il faut évidemment revenir dessus parce qu'elle a conduit directement aux conséquences dramatiques qu'on connaît en Grèce. Dans 2 ans et demi, il y aura des élections européennes et ce sera l'occasion de créer, je crois, un grand mouvement européen pour essayer de reprendre la main, pour que les peuples reprennent la main, pour une Europe ouverte, une Europe généreuse, une Europe qui accueille les réfugiés, comme l'a fait Angela Merkel courageusement, une Europe enfin digne de son destin.
Une Europe qui protège ses frontières, Raquel Garrido, non ?
Écoutez, moi je trouve cette initiative totalement décalée. On parlait du lait à l'instant. Le lait montre à quel point l'idée même d'une concurrence libre au sein de l'Union européenne et entre l'Union européenne et les pays tiers a échoué. Donc, et vous avez un problème toute la désindustrialisation, en fait, toutes les choses qui ont été poussées par l'Union européenne causent les malheurs des Européens. Et si vous avez eu un Brexit, malheureusement, ce n'était pas sur des thèmes de critique sociale ou démocratique de l'Union européenne, c'était sur d'autres thématiques. Et d'ailleurs, les sujets qu'ont portés les Anglais, par exemple, la fin des quotas, parce que la fin des quotas, c'était quand même les Anglais en grande partie qui les réclamaient, sont gardés par Madame Merkel, Monsieur Hollande, Monsieur Renzi. Donc en fait, les Anglais auront le beurre et l'argent du beurre en quelque sorte, parce que comme idéologiquement, en fait,
c'est ce qu'ils veulent, je crois.
Mais comme ils ont gagné idéologiquement.
C'est des commerçants.
Idéologiquement, ils ont gagné vu que Renzi, Merkel et Hollande sont pour la concurrence libre et non faussée, et ils ont quand même le toupet, parce que je le dis. Moi, je trouve ça quand même incroyable d'aller en grande pompe sur l'île de Ventotene et là où Altiero Spinelli a fait son manifeste, parler
pour l'Europe
fédéralisme.
Fédérale, oui.
Mais ça me paraît d'un décalage absolu avec ce désir de protection qui est aujourd'hui réclamé à corps et à cri par tout le monde. Revenons à l'exemple concret des agriculteurs. Ce dont ont besoin les agriculteurs, les producteurs de lait aujourd'hui, c'est de garantie de prix, c'est de protection par rapport à des productions ailleurs qui sont faites dans des conditions non écologiques, non sont respectueuses de la main-d'œuvre. Or ça, ce sont tout autant de règles qui sont condamnées par l'Union européenne. Donc l'avenir, ça va être de pas seulement détricoter les méfaits de l'Union européenne,
ça va être de reconstruire. On va s'arrêter là
avec ceux qui défendent l'Europe actuelle qu'on va le faire.
On va s'arrêter là sur le sujet européen. Il y aura tant à dire. Dans un instant, nous allons revenir à l'actualité avec le rappel des titres.
Au salon des véhicules des loisirs.
Tu sais que le salon international des camping-cars, caravanes et mobilhomes de Paris-Le Bourget commence le 24 septembre, hein ?
Bah oui, le salon des véhicules de loisirs. C'est l'actua et de loin le plus grand choix de camping-cars, fourgons aménagés, caravanes, mobilhomes.
Moi, je vais déjà acheter mon entrée à tarif réduit sur salonvdl.com et comme ça, pas de file d'attente.
Très bonne idée.
Du 24 septembre au 2 octobre, au Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget, découvrez le plus grand choix de camping-cars, caravanes et mobil-home. Bloquez déjà vos dates ? Rock en scène, du 26 au 28 août. 3 jours de rock dans le domaine national de Saint-Cloud. Yeah ! Avec de l'achat de puppets, Massive Attack, Falls, Iggy Pop, Sigur Rós, Sum 41, Cassius, Tudor Cinema Club et beaucoup d'autres. Renseignements sur rockenscène.com. France Info.
Le rappel des titres avec Alexandra Dubouchereau.
Les producteurs de lait de l'ouest de la France convergent vers Laval ce soir dans quelques minutes, début d'une semaine de blocage de l'usine de Lactalis pour dénoncer les prix pratiqués par le numéro 1 mondial des produits laitiers. On sera sur place dans le journal de 20h30. C'était un faux suspense, mais ça y est, c'est officiel. Nicolas Sarkozy est candidat à la présidentielle de 2017. L'ex-chef de l'État l'annonce dans un tweet cet après-midi. Premier meeting de campagne jeudi à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Le tribunal administratif de Nice valide l'arrêté anti-burkini pris par le maire de Villeneuve-Loubet le 13 août dernier. La justice rejette donc les recours déposés par la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie en France. Unité européenne affichée ce soir au large de Naples en Italie. Second mini-sommet entre le français Hollande, l'allemande Merkel et l'italien Renzi depuis le vote du Brexit de juin dernier. Sécurité, économie, jeunesse étaient au cœur de cette réunion de travail. Objectif rassemblé et rassuré sur l'avenir de l'Europe.
20h-21h, France Info, les informés,
Lise Joly.
Et on vous retrouve tous les quatre pour parler du sujet du jour, le sujet dont tout le monde parle ce soir, la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, annoncée dans ce fameux livre, apparaître demain chez Plon, Tout pour la France. Alors, est-ce que quelqu'un a reçu ce livre? Est-ce que quelqu'un l'a ouvert? Est-ce que quelqu'un a lu quelques pages déjà?
Écoutez, j'ai reçu ce livre, évidemment, il était dans les rédactions cet après-midi, et c'était un moyen original, d'ailleurs, d'annoncer cette candidature. Alors, c'est vrai, vous avez signalé le tweet, mais...
C'est du Sarkozy tout craché, il faut bien le dire.
Le contenu du livre ?
Non, cette façon surprenante, de surprendre.
Oui, il fallait l'imaginer, il fallait que ce soit en place, et il fallait, en effet, que l'éditeur se prête à cette campagne, ce qu'il avait déjà fait au mois de janvier. Alors, au mois de janvier, nous avions un autre titre, un autre livre, mais qui était une sorte de post-face à son propre quinquennat pour, dire les regrets qu'il pouvait exprimer sur un certain nombre de choses qu'il avait ratées. Et là, au contraire, c'est le programme. L'idée générale, c'est 2017, c'est maintenant ou jamais, je veux dire. Ça ne se reproduira pas. Et donc, toute son argumentation qui suit, c'est pour dire l'enjeu des enjeux, c'est 2017. Et reconnaître qu'il a été candidat, il a été battu en 2012. Et donc, s'il y revient, c'est parce qu'il estime que, effectivement, c'est qui tout double.
Est-ce que c'est une revanche qu'il prend ? Est-ce que c'est il veut refaire le match ? Michel Durvoy.
Je dirais pas jusqu'à employer le terme de revanche. Je pense qu'il veut créer quelque chose d'inédit, à savoir qu'un président qui a déjà été battu puisse revenir. Je pense
qu'il y a chez nous qu'on voit ça.
On l'a vu nulle part ailleurs. Hein. Oui. Donc, effectivement, ce serait une innovation politique. Je pense que ça ne lui déplairait pas de la réussir. Maintenant, Nicolas Sarkozy est un animal politique. Depuis le jour où il a perdu en 2012, il a envie de repasser à l'action, de reprendre le manche. Donc, ça n'est pas une surprise. C'est un non-événement, mais un non-événement majeur. Je vais vous dire pourquoi.
Tout à fait. Tout le monde en parle.
2017, mai 2017, se joue en novembre 2016. C'est-à-dire que c'est la primaire, le résultat de cette primaire de la droite et du centre, mais enfin on n'en parle pas trop, est absolument déterminante, puisque la probabilité que celui qui gagne la primaire gagne la présidentielle est on ne peut plus forte. Donc c'est le rendez-vous majeur, et la primaire a ceci de particulier qu'on peut accéder à la finale et donc là potentiellement la gagner sur la base d'un petit électorat, enfin numériquement parlant, c'est-à-dire qu'avec sur la base de 3 millions d'électeurs, il suffit qu'on en fasse 1,5 million, 1,6 million et on est propulsé dans la finale, et une fois qu'on est en finale, surtout si c'était face à Marine Le Pen, on a gagné. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est majeur, et c'est pour ça que c'est important qu'un maximum de gens aillent voter en novembre.
Raquel Garrido, vous êtes d'accord avec ça, c'est maintenant ?
Non, j'étais d'accord sur en fait la description sociologique des primaires, qui, contrairement à ce qu'on a dit, ne sont pas du tout un exercice citoyen. Que ce soit les primaires du Parti socialiste ou les primaires de Les Républicains, les études sociologiques qui ont eu lieu en 2011 montrent très bien que en fait les primaires, c'est un petit noyau de personnes déjà très politisées, déjà très proches des partis, et notamment des notables locaux des partis qui votent. Et donc ça n'a rien de citoyen. C'est en fait les traits partidaires qui sont aggravés. Mais pour revenir sur la personne de Nicolas Sarkozy, moi, franchement, je me dis que cette candidature pose des problèmes éthiques. D'abord, il avait quand même lui-même dit qu'il ne serait pas candidat. C'est-à-dire, la situation en 2012 était telle que lui-même ne pensait pas possible de revenir. Et on l'a vu, les histoires judiciaires, etc. Le fait qu'il n'ait pas fait la campagne 2012 selon les règles de l'art, selon la commission des élections, l'empêcher. Et pourtant, François Hollande a tellement échoué qu'il a créé les conditions d'un retour de Nicolas Sarkozy.
Donc, en définitive,
c'est le bilan de François Hollande.
20h-21h, France Info, les informés,
les jolis.
La candidature de Nicolas Sarkozy, annoncée dans un livre à paraître demain chez Plon, Tout pour la France, une candidature qui n'étonne personne, c'est le sujet du jour, on en parle beaucoup. Sorti donc juste avant son premier meeting jeudi à Château-Renard, on en parle ce soir avec Raquel Garrido, avocate et auteur d'un livre pour en finir avec la monarchie présidentielle, François Dorcival de Valeurs Actuelles et Michel Urvoy d'Ouest France, nos partenaires, et puis Franck Pupuna, fondateur du mouvement politique Utopia. Donc, avec Sarko, la droite a 13 candidats pour les primaires. Alors, est-ce qu'elle se cherche ou bien est-ce que certains font-ils, une fois encore, du tout sauf Sarko ? Franck Pupuna, vous voulez répondre ? D'ailleurs, vous n'avez pas réagi sur cette candidature, vous, tout à l'heure.
Non, je n'ai pas réagi. Et en même temps, tout à l'heure, Michel Urvoy a parlé d'animal politique en parlant de Sarkozy. Ça vaut aussi pour certains candidats à gauche. Mais c'est bien ça, le problème. C'est qu'en fait, on en a marre des animaux politiques. Il y a une décrédibilisation complète aujourd'hui de la classe politique actuelle qui est véritablement abîmée par son rapport au pouvoir. Il y a une véritable addiction. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est à la société civile qui n'a jamais accédé aux responsabilités de prendre les devants et d'être sur le devant de la scène. Il faut promouvoir aussi une nouvelle déprofessionnalisation. Le mandat unique, par exemple, exclusif, l'éthique, l'intégrité, etc. Et puis, la deuxième chose que je remarque quand même dans l'ensemble des candidatures de ces derniers jours, c'est l'absence dramatique de la question écologique au cœur des programmes, avec les conséquences qu'on connaît. 2015 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. C'est une folie, une irresponsabilité collective de ne pas questionner à nouveau notre rapport à la nature. Donc pour faire court, il faut non seulement se débarrasser de l'idole du pouvoir en changeant la classe politique actuelle et en osant penser à demain. Et là, je fais une petite référence au film Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent.
Alors, pour François ce qui Dorcival, est de changer 13, la classe politique 13 actuelle... candidats, ouais. Oui, alors je vais vous répondre aussi. Mais changer la classe politique actuelle, je vous souhaite tous mes voeux de succès. Parce que nous savons ce qu'il en est.
On a aussi contribué.
Non, mais nous savons ce qu'il en est. Effectivement, ceux qui sont élus se préparent pendant des années à l'élection. Et pour dire la vérité, les candidats écologistes jusqu'à présent ne font pas preuve de grands succès électoraux. Si, il y a eu un certain nombre de cas, mais tout de même très, très minoritaires. Alors, vous parliez des 13 candidats à la primaire qui a été analysé
tout à l'heure.
C'est
pas un bon chiffre, 13. C'est un mauvais chiffre.
Le 9 septembre prochain seront déposées officiellement les candidatures. et je prends le pari que celles-ci ne dépasseront pas le nombre de 6, c'est-à-dire 6 au maximum, qui auront réuni toutes les conditions, qui sont tout de même assez compliquées, entre les parlementaires, les élus, les responsables, etc. Donc, et les adhérents. Donc,
6, c'est-à-dire fait que vous avez fait votre liste déjà?
Oui, elle est assez facile à faire, en dehors de Sarkozy, Juppé, Fillon... ainsi que le maire, vous aurez très probablement copé, et puis vous en aurez peut-être donc un sixième.
Michel Urvoisfarme, quand même. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous pensez qu'elle va aller jusqu'à la candidature à la primaire?
Il faut qu'elle ait ses signatures, et elle est toujours, en quête de les avoir. Parce que la primaire, et c'est ça que je voulais dire pour rebondir sur la question citoyenne évoquée par Franck Pupuna, la primaire, c'est une machine qui sert à reproduire le système. Oui. Elle sert aux sortants à se préserver.
Et on voit, vous voulez dire que c'est tout le contraire d'un peu plus de démocratie dans les partis.
C'est une illusion de démocratie. Parce que on va avoir que ce soit Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, peu importe, chez les Républicains qui va gagner. À gauche, pourquoi François Hollande accepte le principe d'une primaire? C'est parce que c'est sa seule chance d'accéder à un second tour. Et ainsi de suite. Pourquoi Cécile Duflot accepte une primaire des écologistes? Parce que c'est sa seule chance de rester dans le système. Voilà, et ainsi de suite. Donc, on va se retrouver avec exactement les mêmes qu'il y a 5 ans.
Oui, mes chers Michel, quand vous regardez ceux qui ne sont pas issus de la primaire, alors il y a Nicolas Dupont-Aignan à droite, vous avez à gauche Nathalie Arthaud et notre cher Poutou, etc. Tout cela n'aboutissent à rien. Ils réunissent
mais je suis bien d'accord.
Est-ce qu'on oublie quelqu'un?
Mais bien sûr.
Jean-Luc Mélenchon va démentir tout ça.
Raquel Garrido.
Non, mais là, c'est un autre sujet.
Oui,
Raquel Garrido. C'est un autre sujet parce que, effectivement, Mélenchon, Montebourg, etc., Duflot, en réalité, sont hors primaire de la gauche.
Alors, justement, on me souffle dans l'oreillette que sur France 2, Arnaud Montebourg a parlé de la primaire.
Oui.
Puisqu'il n'en avait pas parlé.
Moi, je vous ai rien souffert.
Entre les lignes, pour dire qu'il n'y serait pas.
Non, là, sur France 2, ce qu'il dit, c'est plutôt que, en gros, il y sera, à condition, toujours la même formule, à condition que les conditions soient réunies. Oui. Mais moi, je pense que, en définitive, soit il sera dans la primaire, dans des conditions, effectivement, qui lui conviennent, soit il ne sera pas candidat à la présidentielle du tout. Arnaud Montebourg, je pense qu'il fait un tour de piste comme nombre de candidats, parce qu'aujourd'hui, la primaire, c'est « the place to be ». Hein, notamment dans la perspective de la défaite, c'est poser ses petites billes pour la suite. Et ça correspond effectivement à ce monde un peu artificiel de la politique que décrivait Franck Pupuna, et qui est celui qui, en définitive, dégoûte tout le monde, c'est-à-dire auquel on n'a plus envie de participer, parce qu'on se dit, mais c'est pour de faux.
Montebourg n'a pas été tendre avec François Hollande, son mise en œuvre, justement,
là, il y a une contradiction majeure chez Arnaud Montebourg. La règle de la primaire, c'est les perdants soutiennent
celui
qui a gagné.
C'est la règle numéro un.
Il dit... Je ne soutiendrai jamais François Hollande.
Oui.
Donc, il refuse d'emblée la règle de la primaire. Je ne vois pas comment il peut être accepté dans cette primaire. Et s'il est en dehors, il perd tout son ensemble.
Et que peut-il négocier avec François Hollande?
Mais en tout cas, sur les règles de la primaire, en général, sur ses effets, j'invite chacun. Moi, j'ai eu beaucoup d'arguments dans le livre de mon camarade, Alexis Corbière, qui s'appelle Le piège du primaire, qui est un livre à sortir, là, qui va paraître le 2 septembre. Vous avez. Le poids des sondeurs, numéro un, une sondocratie. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont voter, elles se posent la question de savoir qui est le plus apte à arriver au second tour, qui est le plus apte à voter, à gagner par rapport aux adversaires, que ce soit la droite ou l'extrême droite ou le PS pour les uns et les autres. Et qui est le plus apte? Les sondages. Donc point numéro un, c'est tout le pouvoir aux sondeurs. Point numéro deux, c'est tout le pouvoir de l'argent. Si vous regardez les études, encore une fois, de 2011, vous verrez que, en gros, François Hollande, Montebourg, etc., ont eu une voix par 30 centimes d'euros investis. C'est-à-dire que les campagnes les plus chères ont été celles qui ont ramené le plus de voix. Et ça pose un problème d'ailleurs.
Comme aux États-Unis, quoi.
Et là, sur la campagne de la droite, on est quand même dans un cadre absolument inédit pour le coup, parce que ce sont des millions des millions. Quand vous dites qu'il n'y aura que 6 candidats à la fin, effectivement, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, des équipes qui sont des équipes avec des personnes payées, des équipes salariées, etc. Tout ça, d'ailleurs, pose des grands problèmes, à mon avis, d'éthique et de financement politique, parce qu'en définitive, est-ce que ça sera repris dans les comptes de campagne de la personne qui sera désignée par les primaires?
Ça, c'est encore
c'est un biais histoire. Qui
je
n'est
voudrais,
pas démocratique.
Je voudrais donner un petit peu la parole à Franck Popuna. Quand on fonde un mouvement comme Utopia, tous ces petits calculs, etc., ça vous inspire quoi? Il y a des primaires chez Utopia?
Non, il n'y a pas de primaires chez Utopia parce qu'on fonctionne notamment au consensus. Vous voyez, on essaye en tout cas, dans un processus, d'inventer de nouvelles formes de démocratie. Donc, si nous étions dans une république utopienne, on va dire ça comme ça, il y aurait des référendums, beaucoup, comme c'est le cas en Suisse d'ailleurs. Il y aurait la possibilité pour des mouvements politiques issus de la société civile de faire irruption dans la vie politique, comme ça a été le cas dans un certain nombre de pays récemment. Il y aurait un seul mandat non renouvelable, exclusif. Il y aurait du tirage au sort. Il y aurait, bref, tout un tas de dispositifs qui feraient qu'on rendrait le plus possible le pouvoir aux citoyens, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau national.
Alors, l'avantage de
François Dorcival, ouais.
c'est d'aller toujours dans les idées générales. Mais dans ces idées générales, il est certain, par exemple, que Montebourg en reprend un certain nombre. Le référendum, il le reprend. Le tirage au sort, il le reprend. Et il y ajoute le service national de 6 mois, etc. On voit bien que vous lancez des idées générales et quand même, il y a des professionnels de la politique qui
je le constate parce que programme. Entre la publication, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais entre la publication de mon bouquin où je fais tout un tas de propositions sur ce qui pourrait être inclus dans une nouvelle constitution de la 6e République et aujourd'hui, je constate qu'il y a une mélanchonisation des esprits. Effectivement, vous le verrez aujourd'hui partout, des personnes qui proposent le référendum. Alors, en réalité, pour toute une partie de la droite française, en particulier de l'extrême droite, il s'agit de plébiscite. Attention, c'est bonapartiste césariste et pas citoyenne.
Pourquoi pas citoyenne? Quelle est la différence entre un référendum que vous proposez et un référendum s'il ne s'agit pas de traiter, de trancher une question qui est évidemment une question politique?
Je vais vous dire la différence. Alors, la différence est fondamentale. Bon. Dans un cas, on consulte le peuple pour que celui-ci donne plus de pouvoir au président, et dans l'autre cas, on donne directement le pouvoir au peuple. Et ce qui va discriminer entre... comment vous faites-vous en tant que citoyen aujourd'hui pour faire la part des choses, du bon grain de livret, regardez ceux qui proposent que des référendums, et notamment la pire hypothèse des référendums le lendemain de l'élection, dans le cas de Fillon par exemple, il dit, je crois, il y a 4 questions qui seraient posées au lendemain de l'élection, alors qu'il vient juste d'avoir une délibération sur une campagne, sur un programme, comme s'il n'y avait pas de mandat.
Laquelle on ne va pas trancher
et
ce
ceux
débat
qui,
tout de suite.
Je termine juste là-dessus. Et ceux qui proposent une assemblée constituante. Parce qu'en définitive, il y a des grandes questions. Moi, pour moi, c'est la base, c'est le point de départ. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous voulez remettre en cause les règles, si vous voulez créer des nouvelles règles, par exemple, celles que propose
réécrire une constitution, on a bien compris.
C'est le point numéro un. Et moi, c'est pour ça que je soutiens Jean-Luc Mélenchon.
Nous allons faire un petit retour sur l'actualité avec le rappel des titres et puis Alexandra Dubouchereau, bien sûr.
Une poignée de tracteurs et de producteurs de lait a commencé à bloquer l'entrée de l'usine de Lactalis à Laval ce soir. Les FDSEA et les jeunes agriculteurs de l'Ouest promettent une semaine de mobilisation pour dénoncer les prix pratiqués par le numéro 1 mondial du secteur. C'était un faux suspense. Nicolas Sarkozy est candidat à la présidentielle de 2017. L'ex-chef de l'État l'annonce dans un livre à paraître mercredi. Premier meeting de campagne jeudi à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice valide l'arrêté anti-Burkini pris par le maire de Villeneuve-Loubet le 13 août dernier. Mini-sommet européen au large de Naples en Italie aujourd'hui sur l'avenir de l'Union européenne post-Brexit. C'est la deuxième fois que François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi se retrouvent depuis le vote britannique de sortie de l'Union. L'Europe n'est pas finie, a affirmé le Premier ministre italien. François Hollande, lui, a plaidé pour une Europe puissante à l'extérieur. Shinzo Abe en Super Mario à Rio cette nuit. Le Premier ministre japonais a voulu montrer l'influence de son pays 4 ans avant les Jeux d'été de Tokyo. On y revient dans le journal de 21h.
20h-21h, France Info, les informés,
les jolis.
Voilà, on revient donc sur cette candidature de Nicolas Sarkozy qui a fait suite à celle de d'Arnaud Montebourg dimanche. Et on est en plein dans la politique, on peut le dire, c'est la rentrée. Alors, est-ce que Sarkozy aura vraiment toujours le parti derrière lui? Qu'est-ce que vous en pensez les uns
les
autres ?
C'est le principe du fonctionnement des primaires. On le disait tout à l'heure, les primaires sont d'abord et avant tout l'objet d'un parti. Donc, vous avez le poids des notables locaux qui est très fort. Pourquoi pensez-vous, par exemple, que Nicolas Sarkozy est revenu sur cette histoire de cumul des mandats ? Y a-t-il question plus antipopulaire que de dire « nous voulons cumuler » ? Donc, il parle à qui ? Il parle aux notables du parti. Parce qu'il sait que c'est là que ça se joue, les cumulards, les barons locaux. Et c'est eux qui ont de l'influence.
Michel Urvoy, et les affaires ?
Pour répondre à la question, les affaires, c'est un peu en suspens. On ne sait pas ce que...
Il reste encore plusieurs procédures en cours.
En cours. Bon, après, est-ce qu'elles vont avoir des suites pendant la campagne, on ne sait pas. Mais pour répondre à la question sur le parti derrière Nicolas Sarkozy, il a été élu avec 70% des militants encartés. Donc ça veut dire qu'il a les deux tiers, grosso modo, du parti derrière lui. Mais toute la question, c'est de savoir quel sera le corps électoral. Et si le corps électoral était de 300 000, chiffre absurde, il serait élu haut la main avec 70%. Si le corps électoral est de 3 millions, chiffre invérifiable pour l'instant, ça ne sera pas du tout dans les mêmes proportions.
Qui participera à cette primaire, c'est ça la question.
Donc on s'éloigne du cœur nucléaire du parti, et plus on s'ouvre à des couches politiques qui sont beaucoup moins militantes, souvent plus centristes en l'espèce, et donc qui peuvent changer la donne pour l'ensemble des candidats.
François Dorcival, je vous donne la parole dans une seconde. D'abord, Franck Popuna qui voulait réagir.
Simplement, il y a un sondage là qui vient de sortir, qui montre qu'il y a à peu près 16% simplement des personnes dans la population qui se sentent proches de Les Républicains. Donc on est vraiment sur une toute petite portion. Il y en a plus de 40% qui se sentent proches d'aucun parti politique. Et là, avant de donner la parole justement à François Dorcival, je voulais lui répondre sur ce qu'il a dit tout à l'heure concernant le rôle de la société civile. Jusque-là, c'était de lancer des idées, les lancer en l'air et puis d'attendre un peu qu'un parti veuille bien les reprendre. Moi, je dis aujourd'hui, la société civile, prenez-vous en main, créez des mouvements, présentez-vous aux élections. C'est ce que voulait faire Nicolas Hulot, en fait. Ça n'a pas bien fonctionné, mais n'empêche que c'est ce qu'il voulait faire. Il avait demandé à des grands économistes, à des prix Nobel, à des sociologues, à des philosophes de participer à un gouvernement. Et ça aurait vraiment fonctionné. En tout cas, il y a l'idée et il faut, à mon avis, la poursuivre. Et la société civile doit changer de rôle, de conseillère, elle doit passer à acteur.
Mais nous avons déjà eu des philosophes dans un gouvernement comme Luc Ferry ou d'autres.
Ce n'était pas les pires.
François Dorcival. On a vu toutes sortes de gens. Dit de la société civile, ce qui voudrait dire qu'il y a une société politique purement politique.
Voilà.
Non, je voudrais revenir sur les sondages que vous avez analysés tous les deux. Pour la primaire, effectivement, les sondages vont jouer leur rôle. Et la question est de savoir si l'électeur, parce que telle personne est en tête, va se porter sur cette personne-là. Mais si c'est le cas, alors François Hollande devrait renoncer tout de suite. Parce que les mêmes sondages vous disent qu'il n'est pas qualifié pour le second tour.
C'est ce que Gérard Filoche lui conseille.
Qui le place juste à l'égalité avec Jean-Luc Mélenchon, si ce n'est derrière lui. Donc, or, nous savons tous qu'il ne va pas y renoncer. Donc, les sondages ne font pas tout, loin de là. Les sondages sont aussi manipulés par les électeurs qui veulent faire avancer tel ou tel candidat et qui savent s'y prendre.
Alors, François Dorcival, je reste avec vous. Vous avez déjà lu quelques pages du livre de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il nous apprend de nouveau de son programme ? Y a-t-il des idées différentes de ce qu'on a connu entre 2007 et 2012 ?
Des idées neuves, on en trouvera, qui effectivement vont animer sa campagne, celle des primaires, mais aussi la campagne présidentielle. Parce que, en ce qui concerne les fonctionnaires, les syndicats, l'autorité, les enseignants, etc., tout ceci constitue un nombre de sujets réels et qui ne passeront pas si facilement. Il va y avoir une vraie bataille autour des thèmes qu'il lance. Alors, il y a effectivement aussi l'autorité, l'identité, etc. Mais... sur un certain nombre de sujets dits sociaux, le printemps, avec toutes les manifestations qui ont entouré la loi Macron, sur la loi travail, l'utilisation du 49.3, etc., laisse inaugurer de sérieuses bagarres.
Mais Raquel, il va faire campagne sur l'identité et l'autorité. Est-ce qu'il marche sur les pas du Front National, sur les plates-bandes même ?
Oui, c'est évident. Mais là, c'était déjà ce qu'il avait tenté en 2012 avec
ce qui n'avait pas marché.
Voilà le succès que
ce qui n'avait pas marché.
Absolument,
ça n'avait pas marché. Très très bien marché en 2007.
Et là, ce qui se passe, c'est que il est parti. Il a été chassé en 2012 par le scrutin sur un bilan économique essentiellement. hein, et qu'on a un bilan social.
600
bilan,
milliards d'euros de dettes supplémentaires, on s'en souvient.
Le chômage. Et aujourd'hui, il va revenir par la petite fenêtre. Alors que ça, ce n'est pas le bon sens. Hein. C'est pas la logique institutionnelle. Cet homme-là, n'oublions pas, perçoit chaque mois des sommes importantes pour son cabinet, pour ses frais, etc.
Pour ne pas revenir, vous voulez dire.
Mais c'est parce que la logique de la Ve République, c'est de garantir à un chef d'État ancien un certain confort matériel, une certaine sécurité. Il est censé aller au Conseil constitutionnel, etc. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, dont le budget personnel, par exemple, est plus important que celui d'un tout petit parti comme le mien, alors que franchement, où est la logique? Où est l'équité entre les candidatures? Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la logique du fonctionnement démocratique. Je rajoute à ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais le fait qu'il n'a pas respecté les règles même de l'organisation de l'élection présidentielle elle-même la dernière fois. Bon, donc il faudrait quand même...
Il n'a pas été condamné à l'inéligibilité à vie.
Non. Mais alors... tout n'est pas question judiciaire. Là, c'est l'avocate qui vous parle. Oui, bah il faut faire alors. La part des choses entre ce que la justice peut poursuivre et condamner, et qui doit être fait selon des règles procédurales très précises, très lourdes, et c'est normal. Et puis il y a des choses qui sont de l'ordre de l'éthique, que les citoyens devraient pouvoir faire valoir, notamment alors, par le droit de révoquer les élus. Vous savez que je plaide pour ce droit citoyen entre les élections, pour que justement tout ne soit pas laissé à la justice. Et dans le cas de Nicolas Sarkozy, ça n'est pas logique que cet homme-là revienne. S'il
ça
revient
n'est pas
aujourd'hui,
logique. On a bien compris
c'est parce que tout ça revient à François Hollande. S'il est là, c'est parce que François Hollande a échoué, et c'est François Hollande aujourd'hui qui a laissé la porte ouverte à Nicolas Sarkozy. Donc voilà, ce qu'on a chassé en 2012, il faudra les chasser les deux en 2017.
Je vais devoir vous interrompre, je vois que vous êtes bien lancé. Mais là, nous allons faire un petit retour sur l'actualité avec le rappel des titres et Alexandra Dubouchereau, comme tout à l'heure.
Nicolas Sarkozy n'est plus président du Parti Les Républicains, conséquence automatique de l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2017. Aujourd'hui, l'ancien chef de l'État l'officialise dans son livre Tout pour la France, à paraître mercredi. On en reparle dans le journal de 21h. La colère des producteurs de lait de l'Ouest à l'appel des fédérations départementales de la FNSEA. Ils ont rendez-vous devant l'usine Lactalis à Laval ce soir et pendant une semaine pour dénoncer les prix pratiqués par le numéro 1 mondial des produits laitiers. Incendie maîtrisé dans le Gard, une centaine de pompiers, des canadaires et des avions bombardiers d'eau ont été mobilisés pour éviter la propagation d'un feu de broussailles qui menaçait 8 habitations. Mini sommet Merkel-Hollande-Renzi pour relancer l'Europe cet après-midi sur l'île de Ventotene au large de Naples en Italie. Le but, c'est de préparer le sommet de Bratislava du 16 septembre consacré à l'avenir de l'Union post-Brexit. Les médaillés français de Rio reviennent demain matin. La majorité de la délégation en tout cas est attendue à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle près de Paris. Et à 18h, François Hollande les recevra à l'Elysée. La France a récolté 42 médailles durant ces Jeux d'été.
20h-21h, France Info, les informés,
les jolis.
Voilà, un dernier mot sur cette candidature de Nicolas Sarkozy, avec ceux qui n'ont pas parlé encore tellement, là, Michel Urvoy, s'il vous plaît.
Oui, en deux mots sur la primaire, et Nicolas Sarkozy et les autres d'ailleurs. La primaire, elle a pour effet de durcir les positions, c'est-à-dire de droitiser le discours de la droite et les propositions, et de gauchiser le débat à gauche. Et la difficulté pour les candidats, c'est un piège, parce que au moment, pour gagner in fine, il faut pouvoir rassembler. Et donc, il y a toujours le risque de trahir ou sa droite quand on ressente, ou sa gauche quand on ressente. Donc ça, c'est une difficulté. François Hollande en a été lui-même victime. Et le débat tel qu'il démarre aujourd'hui, on voit bien que ce soit les thématiques, le ton, et on voit bien dans la pseudo, pour l'instant, primaire de la gauche, comment ça se passe, on s'oriente vers ça. Et c'est très périlleux pour les candidats.
Les primaires à gauche, ça gauchise le débat à gauche. Franck Popuna, Libération titre ce matin, la gauche s'éclate.
C'est pas la question. Moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment la classe politique qui est à remettre en cause et la société civile qui est à remettre au centre. Mais ceci dit, pour revenir à Sarkozy, aujourd'hui, il impose ses thèmes de campagne. Il impose la question de la sécurité, il impose la question de la compétitivité et de la rentabilité. Or, aujourd'hui, on devrait, nous, écologistes, altermondialistes, gens de gauche, comme l'on dit, imposer nos thèmes de campagne. Le revenu universel, par exemple. La question de la réduction du temps de travail, par exemple. La question de la hausse de la protection sociale. Bref, il y a tout un tas de thèmes sur lesquels il faut se pencher. Raquel Garrido, tout à l'heure, a parlé également de la constituante, qui est un thème central pour refonder la République et pour refonder la citoyenneté.
Le problème, voilà, on va peut-être s'arrêter sur Sarkozy.
Non, parce que je comprends très très bien. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas entendu. vous n'êtes pas entendu par les gens à qui vous adressez. Et si vous étiez entendu, ça se saurait. Or, les thèmes actuels, pourquoi dit-on que Sarkozy court sur les plates-bandes du Front National ? Mais parce que le Front National, grâce certainement à la politique de François Hollande depuis 2012, est passé de 18 à 25%. C'est ça la réalité, et qu'il s'est imposé dans les élections françaises.
Alors, François Dorcival,
et donc,
vous
on
oubliez.
Comprend très bien que Nicolas Sarkozy veuille reprendre un certain nombre de ces électeurs-là perdus.
Oui, oui.
Et c'est pas vous qui le faites, malheureusement.
François Dorcival, vous avez raison quand vous réfléchissez dans le domaine étroit des personnes qui votent encore. C'est évident.
Mais
que
pas étroit.
C'est... Non, si.
La présidentielle, c'est
80%. Quand vous parlez de 25% pour Front National, oui. Vous vous référez aux élections européennes où il y a eu moins de 17 millions de votants.
Tout le monde est libre d'y aller.
D'accord. Oui, mais attention.
Il y en a
quand même qui sont plus libres que d'autres. Parce que quand vous avez la liberté d'aller voter pour des gens qui vous trahissent systématiquement une fois qu'ils sont élus, alors vous n'avez plus la liberté réelle d'aller voter. Et moi, je suis de celles qui ne prend pas les abstentionnistes pour des brebis galeuses, mais plutôt pour des victimes, des personnes qui en ont assez, à juste titre, de la vie politique telle qu'elle est, des personnels politiques tels qu'ils sont. Donc, attention. Oui, moi, je considère qu'aujourd'hui, l'enjeu pour ma génération, ce n'est pas de rester dans ce petit compte à soi de gens qui votent encore, mais de s'adresser à la moitié, à cette grande moitié des Français qui ne votent plus, qui préféreraient, par exemple, qu'on prenne en compte leur vote s'ils votaient blanc, qui préféraient...
Fait. Non, non. Et ça ne sert à rien.
Non, et on les comptabilise.
Ça ne sert
mais
à rien.
On les comptabilise, sauf que ça, au final, ça ne sert à rien. Moi, je serais pour, par exemple, qu'une loi qui n'a pas une vraie majorité, ou une assemblée qui n'a pas une vraie majorité, soit pas élue.
Ah ben non,
on a bien compris,
Raquel Garrido.
On a bien compris.
Donc c'est ça qu'il faut changer.
J'aurais aimé, avant de terminer ces informés, parler d'un sujet plus léger, pour terminer en beauté, les JO dont on a fait le bilan toute la journée, les 43 médailles françaises. Un petit mot chacun. Alors ces 43 médailles, est-ce que vous pensez que c'est un bon point pour nous, pour la candidature de la France en 2024 ?
Moi, sur les JO, je suis partagé. C'est-à-dire qu'il y a le premier côté de la médaille, c'est les conséquences sociales, écologiques et économiques qui sont clairement néfastes aujourd'hui. Enfin, à Rio, en plus, on était dans un contexte...
Le Brésil n'en profitera pas du tout.
Ah bah non, et en plus, on était en plein coup d'État institutionnel. Enfin bref, les Brésils et les Brésiliens surtout. En revanche, ce qui est bien, et ce qu'il faut conserver, c'est l'esprit des Jeux. Voilà, l'appartenance, ou en tout cas le sentiment d'appartenance à une seule et même humanité. Le selfie de la Coréenne du Nord et de la Coréenne du Sud, c'est une vraie illustration.
C'est la fin des informés que vous pouvez retrouver sur franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux, hashtag les informés. Merci à tous les quatre, Raquel Garrido, François Dorcival, Michel Urvois et Franck Pupunin.